ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mardi 9 décembre, mesdames, messieurs, bienvenue à ces gens qui font la différence. Aujourd'hui, je reçois Gérard Miller. Il est directeur général du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Après des études en droit, Gérard Miller a d'abord enseigné avant de faire carrière dans le milieu communautaire. Il est directeur général du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, le RAC, dont la mission consiste à promouvoir et à défendre les droits des aveugles afin de favoriser leur intégration à part entière dans tous les domaines de l'activité humaine. Nous passons 60 minutes avec lui, tout de suite après cette pause. Monsieur Miller, bienvenue parmi nous aujourd'hui. Un grand plaisir de vous recevoir.
Bonjour Sophie, bonjour tout le monde.
Alors, on va vous découvrir davantage parce que votre œuvre est là et vous la tenez à bout de bras depuis des années. Et on va pouvoir découvrir l'homme derrière l'organisation et bien sûr l'organisation. Monsieur Miller, un parcours atypique. Il vous arrive quelque chose d'épouvantable à l'âge de 13 ans, racontez-nous ce qui s'est passé.
Je préparais un mélange fumigène pour une pièce de théâtre et en cours de préparation, ben, tout avait bien été, mais pour transporter le produit, il fallait que je le mette dans un contenant et ce contenant m'a explosé dans la main droite, me faisant perdre la vue et un certain usage de la main droite dont la sensibilité n'est jamais revenue parfaitement. Ce qui explique, par exemple, que un peu plus tard, quand j'apprendrai le braille, eh bien, je dois le lire de la main gauche parce que de la main droite, il me manque certains points.
C'est ça. Alors donc vous faites le tout avec la main gauche pour les années. Est-ce que commencer le diagnostic parce que suite à cette explosion, ça y est, vous ne voyez plus.
C'est ça.
Vous apprenez ça tout de suite, ça va graduellement. Est-ce que c'est un non-retour dès le premier rendez-vous chez le docteur?
Non.
Comment vous apprenez ça?
Je l'apprends très, très progressivement. En fait, les médecins vont multiplier les chirurgies pendant des années. Et ces chirurgies-là sont toujours un peu retardées parce qu'on est à l'époque où il y avait beaucoup de grèves dans le réseau de la santé et des services sociaux. Alors, ça s'étire, et jusqu'à presque 7 ans. À la fin, on me propose encore une chirurgie, mais là, je n'ai plus 13 ans. Là, je commence à prendre moi-même l'initiative de quelques questions. Et je dis, au fait, j'ai combien de chances de regagner quoi que ce soit comme vision? On me dit peut-être une chance sur 1 million. Et puis, de toute façon, dans ton cas, mon jeune, j'ai jamais vu quelqu'un recouvrer quelque vision que ce soit. Ben là, instantanément, ma décision était prise. Écoutez, je vais vivre avec et je vais commencer par reprendre mes études, abandonner alors que j'étais en élément latin, c'est-à-dire la première année du secondaire à l'intérieur d'un cours classique. Là.
Alors, vous terminez même pas votre cours classique et c'est vrai que ça chambarde une vie, mais ça chambarde aussi une vie d'avoir un diagnostic aussi brutal. La personne dit, mon jeune, j'ai jamais vu ça. Donc, ça, les rêves, ça sont rendus où, là, dans votre tête?
Ben, il faut dire qu'au moment où un médecin a eu cette franchise, Moi, j'aurais aimé que ça se passe auparavant, mais au moment où le médecin a eu cette franchise, j'étais déjà aveugle depuis presque 7 ans, moi, là.
Oui.
Là.
Parce qu'il y a des chirurgies qui ont suivi, il y a eu quand même de l'espoir en faisant toutes ces opérations.
Oui, c'est ça. Le résultat, c'est que je l'ai pas appris progressivement, je l'ai réalisé progressivement, et à la fin, ben, c'était tout simplement la confirmation.
Qu'est-ce que ça fait comme cheminement académique? Parce que vous arrêtez, vous n'avez pas le choix. Est-ce que vous vous posez déjà la question, bien, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je vais reprendre mon cours classique?
Dans l'intervalle, le cours classique avait disparu. C'était, il fallait tout simplement que je me remette aux études régulières. Maintenant, dans un premier temps, je me suis dit, je vais toujours bien commencer par une école spécialisée, en me disant, ah, bien, une école spécialisée, ils doivent être équipés, eux autres, qu'il doit y avoir des murs complets d'électronique là-dedans. Alors, je suis allé à l'Institut Louis Braille,
Oui.
qui était à Longueuil, et ma première surprise fut de constater qu'il y avait zéro électronique là-dedans, alors que moi, en fait, j'avais plus d'électronique, moi, à la maison, que dans tout l'Institut.
Donc, ils n'étaient pas du tout équipés?
Pas du tout.
Bon.
Ils étaient équipés très bien en braille, mais pas pour l'audio.
Alors, ils ne suivaient pas, là, finalement?
Ben, pour une raison que je peux comprendre, ils avaient consciemment banni l'audio en se disant, si on veut que nos gens apprennent à lire et à écrire, faut les mettre au braille. Il y a un peu de vrai là-dedans. Sauf que moi, à partir de 13 ans, j'ai été uniquement à l'audio. Et j'ai la prétention de bien écrire et de bien lire. Alors, c'est questionnable, mais les gens à l'époque avaient fait ce choix-là.
Et comment ça se passe dans la famille? Je veux dire, on a passé de l'âge de 13 ans à jeune adulte. Votre famille, vous avez un soutien? Est-ce que ça se passe différemment? Il y a des déceptions? Comment ils prennent la nouvelle?
Ben, dans la famille, ça n'a pas causé de problèmes majeurs. Ma mère me faisait souvent la lecture des journaux, notamment. Chaque jour, elle me consacrait au moins 1 heure pour lire les journaux. Mon père, qui était souvent absent de la maison parce qu'il était employé des chemins de fer, lui, quand il passait à la maison, lui, sa spécialité, c'était les magazines. Il me lisait divers magazines, articles de magazines. Et puis, bien sûr, moi, pendant toutes ces années que j'ai passées entre la maison, l'hôpital et quelques amis, pendant ce temps-là, j'ai pas cessé de me cultiver pour autant. Et ça peut paraître bizarre à certains, mais c'est fou ce qu'on peut apprendre à la radio et à la télé.
Tout à fait.
Je me rappelle notamment, je conserve un bon souvenir de la radio FM de Radio-Canada, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, où il y avait, je crois que c'était le samedi, 2 heures qui étaient consacrées à une institution qui s'appelait l'Université radiophonique et télévisuelle internationale. Il y avait là-dedans, c'était divisé en 4 demi-heures, il y avait des conférences, des exposés, des entrevues de divers scientifiques. C'était passionnant. C'est une émission que j'ai suivie pendant des années sans en manquer une. Et de telle sorte que, pas rien qu'à cause de cette émission-là, mais aussi d'autres, je me suis intéressé. C'était une époque où il y avait beaucoup d'actualités un peu extraordinaires. La guerre du Vietnam, bien sûr, l'assassinat de Robert Kennedy, de Martin Luther King, la conquête de l'espace, la guerre des 6 jours entre Israël et les pays arabes.
Une radio riche qui était devenue votre amie, mais aussi votre culture.
Oui, puis on diffusait en direct à la télé tout plein de choses. Pendant... À l'occasion de la guerre des 6 jours, par exemple, je me souviens d'avoir passé des journées complètes devant la télé Écouter, parce que moi, évidemment, la télé, je la vois pas, mais je l'écoute, les séances des Nations Unies diffusées en direct, le Conseil de sécurité des Nations Unies, ben, mine de rien, c'est instructif. Ça, ça vaut plusieurs écoles, ça.
Tout à fait. Donc, votre université, votre académique, vous l'avez quand même fait. Vous l'avez fait par le biais de la radio puis la télévision parce que vous aviez l'air de manger de l'information, comme on dit. Mais vous êtes quand même... vous avez décidé de reprendre vos études.
J'ai décidé de reprendre, notamment parce que je voulais apprendre les techniques déjà développées pour les handicapés de la vue. Je me suis dit, il y a des choses que je pourrais développer par moi-même, mais pourquoi réinventer la roue si des gens avant moi ont déjà fait des choses?
Alors, c'était dans le but d'aider. C'était dans le but parce que, comme vous avez dit, vous avez fait un constat qu'à l'école où vous y alliez, bah, c'était un petit peu pauvre au niveau de la bibliothèque, entre autres. Et là, on a l'impression
Non, c'est-à-dire que la bibliothèque était assez riche, mais uniquement en braille.
C'est ça.
Du
c'est
point ça. De vue de l'audio, il n'y avait rien.
C'est ça, au niveau de l'audio, il n'y avait rien.
Une des premières choses que j'ai faites à l'Institut Louis Braille, c'est justement d'apprendre le braille. Et c'est pas très compliqué d'apprendre
le
braille.
C'est ça, je l'ai posé comme les gens qui nous écoutent. Est-ce que c'est difficile parce que c'est un apprentissage? Est-ce que,
Ce qui est difficile, c'est de habituer notre sens tactile à détecter l'emplacement des points sur le papier.
Okay.
Ça, ça demande de l'entraînement. Par ailleurs, c'est un exercice d'apprentissage par cœur, tout simplement. Il faut apprendre comment sont composées les lettres. Et puis, il y a l'abrégé braille. Ça, c'est une histoire un peu compliquée, mais je vous résume. Le braille prend beaucoup d'espace. Parce que les caractères d'imprimerie doivent être assez gros. Le sens tactile étant précieux, mais moins précis que la vue. Avec la vue, on peut avoir de grands caractères, des caractères ordinaires, de très petits caractères, et les voir quand même. Sauf peut-être en bas des contrats d'assurance, mais c'est une autre histoire.
ou des mauvaises publicités, hein? De voitures notamment.
En braille, c'est tout à fait standard. On parle d'une seule dimension de caractère, chacun occupant l'espace de 1 cm de haut et 6,35 de large.
C'est
donc très gros et ça prend de l'espace.
Ça prend de l'espace. Et est-ce que c'est, dans le langage des signes, ce n'est pas universel? Par exemple, ceux qui sont, qui apprennent à signer et qui sont au Québec, et quand ils traversent en France, ils ont de la difficulté, c'est pas la même chose que le braille, c'est universel?
Non. Chaque langue a son braille. Le caractère typique que je viens de vous décrire, 10 mm sur 6,35, ça, c'est standard sur la planète au complet.
D'accord.
Maintenant, chaque langue a son code. Parce que vous parliez du langage des signes.
Oui.
C'est un langage qui est différent de la langue à laquelle il est associé. Dans le cas du braille, il s'agit tout simplement d'un code. De la même manière que les calligraphes représentent les mots sur du papier, à l'encre sur du papier, les imprimeurs braille représentent les mots en relief sur du papier. Mais c'est un code, essentiellement. Quelqu'un qui lit en braille va lire exactement les mêmes lettres, les mêmes chiffres, les mêmes signes de ponctuation que quelqu'un qui lit à vue.
D'accord. Alors, on fait une pause musicale et on écoute Ella Fitzgerald, I've Got My Love to Keep Me Warm.
The snow is snowing, the wind is blowing, but I can't weather the storm. What do I care? How much it may storm. I've got my love to keep me warm. I can't remember a worse December. Just watch those icicles fall. What do I care if icicles fall? I've got my love to keep me warm. Off with my overcoat, off with my glove. I need no overcoat, I'm burning with love. My heart's on fire, the flame grows higher. So I will weather the storm, storm, storm. What do I care how much it may storm?
Poursuit notre entrevue avec Gérard Miller, directeur général d'Urop.
Incidemment, c'est Gérald.
Gérald. Voilà, Gérald. Voilà.
Je le dis habituellement avec un L comme dans oiseau.
Bon. Alors, je vais m'appliquer à faire le L davantage. Ça convient?
C'est beau.
Ah, vous avez vraiment fait vos classes au niveau du braille. Vous m'avez dit, c'est pas si difficile que ça. Vous l'avez...
Je l'ai appris en 2 mois.
Ah, quand même, hein. Comment c'est le fait de l'apprendre? Vous avez un professeur qui vérifie. Comment on apprend le braille?
Ça se fait en enseignement individuel. Mm-hmm. Alors, une heure par jour, je passais une heure par jour avec le prof de braille, qui en l'occurrence à l'époque s'appelait Pauline Gueudic. Mm-hmm. Et je ne la saluerai pas parce qu'elle n'est plus avec nous. Mais si elle nous entend de je ne sais où, je pense encore à elle. Mm. Une prof exceptionnelle qui m'a enseigné non seulement le braille, mais la logique du braille. Mm. Et une fois qu'on connaît la logique du système, ça devient beaucoup plus facile de l'apprendre.
Est-ce que vous avez eu peur d'apprendre des peurs au début? De vous plonger là-dedans? Est-ce qu'il y avait des réticences de dire « bon, je ne serais pas capable des... »
Non, non. J'ai toujours été un bon étudiant, et je le sais, et j'en suis conscient, et j'en suis fier. Uh-huh. Non, il n'y a rien qui me faisait peur là-dedans. Et j'aime les études.
Ouais.
En réalité, si on pouvait, comme profession, devenir étudiant, pas c'est cette profession-là que j'aurais choisie.
Vous aimez apprendre.
Ah, j'adore.
Et c'est pour ça que vous avez aussi été professeur. Ben, professeur de mathématiques, professeur
de français.
De français
et à un moment donné, prof de braille.
Ah ben oui.
Alors, c'est sûr que quand on aime étudier, je pense que c'est inévitable, quand on aime étudier, on aime enseigner. Mm. Ça va ensemble, je pense, comme les deux doigts d'une même main.
Donc les mathématiques, la bosse des mathématiques, ça vous l'avez?
Je crois, oui. Tous les gens qui ont travaillé avec moi me disent T'as pas besoin de calculatrice, toi.
Parce que c'est inné chez vous, là.
Si je peux dire... J'ai pas de mérite, ça vient tout seul.
Est-ce que vous avez du plaisir à jongler avec les chiffres quand vous aviez du plaisir avec vos élèves aussi?
Toujours.
Parce que c'est pas facile, hein, de professeur de mathématiques. C'est pas tout le monde qui a la bosse, là.
Non, effectivement, la plupart des gens détestent ça. Mais moi, j'adore ça, surtout que, de toute façon, avant de perdre la vue, je me destinais aux sciences. Je pensais à la chimie, la physique. Aujourd'hui, je sais que j'aurais probablement fini genre ingénieur en électronique peut-être en résistance des matériaux, quelque chose comme ça. Évidemment, le fait de perdre la vue empêche ça parce que aveugle dans un laboratoire, ça peut être un peu compliqué. Puis je me suis dit, un accident, je n'ai eu un, c'est assez. Là.
Ouais.
Alors, à la place, je me suis en allé du côté droit.
Oui, parce que là, ça, vous aviez envie de faire votre licence.
C'est ça
que j'ai fait. Vous n'avez pas peur de relever les défis? Vous êtes, plusieurs personnes se seraient dit, non, ben, ça va, c'est trop compliqué, mon chemin pour y arriver... Mais vous avez décidé, ça y est, je me lance en droit. Et comment ça s'est passé, ces études-là?
Ça a été difficile parce que je n'avais pas réalisé auparavant, mais en droit, il y a beaucoup de paperasse. Et à l'époque, il n'y avait pas d'informatique. Je parle d'informatique populaire. Il y avait de l'informatique pour les banques, les compagnies aériennes, mais on parlait d'ordinateurs qui occupaient des salles complètes. Il n'y avait pas d'informatique populaire. Alors, il fallait que je fasse tout enregistrer.
C'est-à-dire les cours?
Au début sur bobine et ensuite sur cassette, là, ça s'est popularisé. Mais ça veut dire... des magnétophones, ça veut dire des bobines, des cassettes, et trouver des lecteurs qui sont prêts à lire des textes de droit, c'est pas toujours évident. Puis aussi trouver des bénévoles pour aller en bibliothèque faire des recherches.
Ah oui.
Et ça, c'était extrêmement compliqué. Ça pouvait prendre des jours pour trouver une information qui sert à écrire un paragraphe. Alors qu'aujourd'hui, je m'assois devant mon ordi, je tape www.jugement.qc.ca et j'arrive sur le site, est-ce que c'est le ministère de la Justice qui opère ça, je ne sais pas, mais j'arrive sur le site et j'ai accès instantanément à n'importe quel jugement rendu au Québec.
Alors, pour les livres de droit, est-ce que c'était en bras? Est-ce que vous deviez vous battre? Comment ça s'est passé? Parce que ça aussi, la littératie, c'était pas évident. Vous en avez parlé. Bon, ne serait-ce que pour prendre les cours, ça vous prenait plus de temps que tout le monde. Vous deviez enregistrer tout. Mais en ce qui concerne les livres, comment vous vous êtes débrouillé?
Il n'y avait aucun livre en braille.
C'est ça?
Et il n'y avait aucun livre sur bobine ou cassette non plus. Il fallait que je fasse moi-même mes livres. Avec des lecteurs, des gens bénévoles qui avaient la gentillesse, la générosité de me donner des heures pour enregistrer les livres. Et ça suppose beaucoup de travail de leur part, mais aussi de ma part, parce que eux ne connaissent pas, les lecteurs bénévoles ne connaissent pas le droit et ne connaissent pas la technique liée à la magnétophonie. Alors, ça suppose beaucoup de travail de mon côté aussi. Et une fois que j'ai accompli ce travail-là, j'ai encore rien étudié. Il faut ensuite que je les lise, moi, les livres, que je les comprenne, etc. Donc, c'est beaucoup d'heures.
Est-ce que vous avez eu beaucoup d'appui? Bon, vous avez parlé des bénévoles, mais au niveau des professeurs, est-ce que les gens étaient ouverts ou ça, c'était encore des batailles que vous deviez faire?
Autant au cégep qu'à l'université, j'ai eu besoin de livrer zéro bataille.
Bien.
Ça, c'est toujours ça. Évidemment, il fallait que je sensibilise les gens parce que, pour la plupart d'entre eux, j'étais le premier aveugle qu'ils rencontraient dans leur vie. Alors, il faut quand même les sensibiliser. comment tu penses que tu vas faire pour les examens? Ben, on peut faire des orales, des oraux, des examens oraux, tout simplement. Et ça s'est toujours arrangé très facilement.
Est-ce qu'il y a des moments où vous étiez un peu découragé pendant ces années d'études?
Un moment donné, après la troisième année de droit, je commençais à trouver ça lourd et surtout qu'il fallait que je travaille en même temps pour toujours bien vivre, hein, faut gagner un peu de sous. Alors, les études de droit, plus le travail, plus en même temps on menait la bataille des chiens guides pour obtenir que les droits des utilisateurs de chiens guides soient inclus dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Alors, je commençais à trouver que mes semaines étaient pas mal occupées.
Chargées.
Ouais. Ouais. Mais néanmoins, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne pas faire ma licence sur 3 ans, mais de l'étaler sur 4 ans. Parce qu'autrement, j'y arrivais pas.
Ce qui vous permettait de respirer. On revient
de respirer un peu.
Après la pause, et justement, vous en avez parlé de votre implication, parce qu'à l'intérieur de vous, il y avait une flamme, non seulement une flamme, mais l'envie d'aider son prochain et de faire en sorte que ça change. Et ça a l'air que vous l'avez eu. Alors, on revient avec cette flamme-là, votre implication dans votre travail, dans le travail communautaire.
Gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Ces gens qui font la différence, si c'est votre première écoute, mesdames, messieurs, 60 minutes qu'on donne la parole à ceux qui changent la société par leur implication sociale, par ce qu'ils font, par leurs gestes et leur envie de voir la vie autrement. Alors, nous avons Gérald Miller, directeur général du RAC, qui est avec nous. Gérald, vous me disiez, j'ai décidé de faire ma pratique de droit un petit peu plus tard, et pendant que vous étiez sur les bancs d'école, vous aviez envie de changer les choses. C'est arrivé comment, cette envie de changer les choses?
Je termine ma 11e année ou secondaire 4 à l'Institut Louis Braille. Et pendant l'été, je suis des cours d'appoint en mathématiques parce que je décide de ne pas faire de secondaire 5 et d'aller directement au cégep. J'avais perdu plusieurs années, alors il fallait que je récupère des années, en l'occurrence... En 2011, 71-72, j'ai réussi à rattraper secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4 et secondaire 5. Et là, je me pointe au cégep des cours d'appoint en mathématiques, cours de mathématiques secondaire 5. On est le premier jour, le premier cours. Et là, le midi, ça durait toute la journée, les cours, pendant quelques semaines. Et dès la première journée, le midi, je vais à la cafétéria Et j'ai fait copain-copain avec deux filles qui m'accompagnent, puis c'est gentil parce que je connaissais pas tellement comment était fait le cégep. On s'assoit pour manger et à la table d'à côté, il y avait les gens de l'association étudiante qui, pendant l'été, se réunissaient à l'occasion pour préparer la rentrée de septembre. Le soir même, j'étais à l'exécutif de l'association étudiante.
C'est toujours comme ça.
Ça a pris une journée.
les oreilles vous drainaient. Et puis là, vous avez dit, ça a l'air très intéressant à la table d'à côté, tellement intéressant que je vais m'impliquer, c'est ça?
Ben oui, c'est
ben
ça.
Oui. Et le membre de l'exécutif, ça a été ouf, ils avaient trouvé leur homme, c'est ça?
J'étais pas seul, là.
Non, mais...
Mais ils en avaient trouvé un, en tout cas.
Tout à fait, tout à fait.
Et dans les associations étudiantes, on ne lève jamais le nez sur une participation intéressée. Alors, je me suis occupé de l'association étudiante, je me suis occupé du journal étudiant. On publiait quand même de 8 à 12 pages chaque semaine, à 2000 exemplaires.
Intéressant.
Alors, ça faisait pas mal de travail, ça aussi. Et là, après le cégep, je me suis intéressé beaucoup aux chiens guides.
C'est ça.
Et là, ça a parti toute une implication différente de ma part. Dès 1974, quelques personnes et moi-même, on fonde le mouvement pour les chiens guides. Et il est clair que ce qu'on veut, c'est que nos droits soient protégés par la toute nouvelle Charte des droits et libertés de la personne. Et c'est un combat qui va durer 5 ans, qui va m'occuper beaucoup, de même qu'un copain à moi appelé Michel Langlois. Il était à la magnétothèque dernièrement, je pense, et ça va nous occuper énormément pendant 5 ans. Mais au moins, si le parcours fut difficile, l'arrivée fut agréable parce qu'on l'a obtenu, oui. Notre amendement à la Charte des droits et libertés de la personne, à l'article 10, un tout petit bout de texte. Hein, on a travaillé 5 ans pour une dizaine de mots, 10 ou 12 mots. C'est-à-dire que l'article 10 protège maintenant les gens contre la discrimination fondée sur le handicap ou l'utilisation de quelques moyens pour y pallier.
Alors, 5 ans pour arriver à ce point-là.
Ce petit bout de phrase.
Ouais, ouais.
Maintenant, aujourd'hui, 35 ans plus tard, nous sommes en 2014, et à la Commission des droits de la personne, 35 % des plaintes reçues sont fondées sur ce petit bout de texte.
Alors c'est
le 65 % restant, c'est toutes les autres discriminations. Raciales, fondées sur le sexe, l'état civil, l'orientation sexuelle, la religion, les opinions politiques, tout ça, c'est 65 %. Et le handicap, etc., 35 % à nous tout seuls.
Et ce qui vous pousse à fonder donc le RAC, c'était en 1974?
Tout ça s'est fondé en même temps.
OK.
En été 74, moi, je suis en transit entre le cégep et l'université, et existe une association qui s'appelait l'Association des handicapés visuels étudiants du Québec, et eux organisent un congrès en août 74. Ayant en tête la fondation d'un organisme plus large que celui qui s'intéressait uniquement aux étudiants. L'idée est adoptée sans hésitation, et là, pendant tout l'automne, des gens vont se réunir, y compris moi, pour essayer de définir quelle sera la nature de l'organisation. Et finalement, au début de 75, janvier 75, on obtient des lettres patentes du gouvernement du Québec et là, le RAC est officiellement fondé.
Vous existez, c'est ça.
Et existence légale, oui.
Exact. Et donc, vous impliquez pendant toutes ces années, vous aviez envie de défendre à ce moment-là, en 75, vos dossiers, c'était quoi?
Ah ben, il y en avait beaucoup pour la simple raison que quand on se situe en 74-75, en termes de services aux aveugles, il n'y a à peu près rien. Mm-hmm. Il y a l'INCA qui existe depuis les années 20, après la Première Guerre mondiale. Il y a l'Institut Louis Braille et l'Institut Nazareth qui sont essentiellement des écoles. Et ça s'arrête là. Ou à peu près. Il n'y a pas de vues et voix, il n'y a pas de magnétothèque, il n'y a pas de RAC.
C'est vide, quoi.
La
c'est
plupart
tout est à
de
faire.
Nos associations régionales n'existent pas, mm-hmm. ou si elles existent, elles en sont à leur tout début sous forme d'organismes de loisirs. Même les organismes de loisirs à Montréal n'existent pas, ou à peu près pas. Il n'y a pas de programme des aides visuelles, il n'y a pas de humanware, il n'y a rien.
Tout est à construire, finalement.
À peu près tout est à construire. Alors, le travail ne manquait pas. On s'est intéressé à ça. Une des principales choses, à part la reconnaissance des droits des utilisateurs de chiens guides, à part ça, on portait une grande attention au programme des aides visuelles qui, lorsqu'il est arrivé, je crois que c'était en 78, s'appelait le programme AMEO, pour aide mécanique, électronique et optique. Et ça, c'est un programme de la Régie de l'assurance maladie qui défraie, pour les handicapés de la vue, des appareils coûteux.
Alors, donc, on revient tout de suite après, on fait une pause musicale, Saravane, et on revient avec le RAC. Tout ce que vous offrez comme service, parce que de 1974 à 2014, il y a eu vraiment un long parcours, un long chemin, mais il reste encore des dossiers et des batailles.
Raindrops on roses and whiskers on kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad.
My favorite things. Alors, 2014, Gérald Miller, il y a encore beaucoup de projets dans les cartons de l'organisme, notamment bon, les dossiers, je vais les énumérer, puis vous me direz exactement ce que vous voulez faire. Dossier des terminaux de points de vente.
Oui, ben, dans le dossier des terminaux de points de vente, on a un certain nombre de demandes qui portent sur l'adaptation du clavier. Notamment, ce qu'on déteste parmi tout autre chose, ce sont les claviers qui ont des boutons virtuels dessinés sur une plaque lisse. Mm-hmm. Pour nous, c'est totalement inaccessible.
Mais oui.
Alors, on veut de vrais boutons, on veut un point sur le 5, un petit rond sur le OK. On veut également que lorsqu'on appuie sur le bouton, il y a un bip de confirmation, etc.
Accessibilité web, et puis on en a parlé pendant l'émission, et vous êtes la preuve que c'est très important. Il y a encore du travail?
Oui, il y a encore du travail, il y en aura tout le temps, parce que, en toute réalité, le web est en constant développement. Il y a toujours de petits malins qui ont l'esprit inventif et qui vont développer de nouveaux ingrédients pour composer des pages web. Et bien sûr, lorsqu'ils développent ça, les aveugles, c'est la dernière de leurs préoccupations. Alors, il faut trouver des moyens d'adapter nos logiciels pour qu'ils puissent, pour qu'ils permettent aux aveugles de manipuler ces nouveaux éléments apparaissant sur les pages web. Et il faut sensibiliser les développeurs de contenu pour qu'ils améliorent leurs éléments, les éléments qu'ils développent, de manière à ce que nous, on puisse, comme tout le monde, avoir accès au web.
Dans les cartons de vos projets également, évidemment, ça suit. Hein, écran liquide, améliorer aussi les claviers.
Les écrans à cristal liquide, ce sont les écrans qui se retrouvent de plus en plus sur à peu près tous les appareils. J'ai une machine à café à la maison qui a des tas de fonctions, mais je peux en utiliser une parce que pour toutes les autres fonctions, il faudrait que j'utilise l'écran à cristal liquide, je ne le vois pas. Si on ne fait rien, j'ai l'impression que dans quelques années, un aveugle ne pourra même pas se faire une toast parce que les grille-pains vont fonctionner avec des écrans à cristal liquide.
Okay.
Alors, il faut s'en occuper, mais c'est un dossier d'une grande complexité. On y reviendra un jour.
Alors, on sait très bien qu'on marche à travers le Québec, on marche à travers Montréal, on est sensible à ça. Je le suis particulièrement de voir comment les gens sont servis, notamment dans ma fonction d'animatrice. Je regarde ce qui se passe autour de moi tout le temps et l'aménagement des voies. Ça n'a pas l'air évident et ça, vous allez vous y attaquer. C'est pas évident pour vous, là?
Oui.
Pas beaucoup de coins de rue à Montréal où on s'occupe de vous?
Il faut dire que les voies carrossables et les voies piétonnières ont été pensées par des voyants, pour des voyants. Les aveugles sont peu nombreux. Alors, ça a été fabriqué et maintenant, il s'agit de les adapter. Alors, il y a toutes sortes de dossiers dans ce domaine-là. Nous, on s'intéresse notamment au dossier des feux sonores. Les handicapés qui nous écoutent, les handicapés de la vue qui nous écoutent, ça va leur sonner une cloche. Les feux sonores, les carrefours giratoires qui sont en développement spectaculaire actuellement et qui sont parfaitement inadaptés aux aveugles et aux amblyopes. Il y a les pistes multifonctionnelles qui se développent. Ça, ce sont des rues ou des rues partagées. C'est tellement récent que le vocabulaire n'est pas stabilisé. Alors, ce sont des rues où on dit, ben, c'est ouvert à tout le monde. Les autos, les piétons, les cyclistes, les gens en fauteuil roulant, les gens en patins à roues alignés, les joggeurs, n'importe qui peut passer là. Mais ça peut être dangereux. Ça, c'est peut-être bon en campagne où il n'y a pas une grande affluence, mais mettez ça en ville où les automobilistes, les camions, les piétons, les cyclistes, tout ça mélangé sur une même voie, t'as un peu, là, c'est compliqué, ça, là, puis ajouter des aveugles là-dedans. Notre espérance de vie ne serait pas longue. Alors, on s'en occupe aussi. Et beaucoup d'autres dossiers...
À venir pour le RAC. Notamment, vous êtes allé déposer votre mémoire. Vous avez fait ça. Vous avez été nombreux à le faire au niveau de la SNAP, l'Assemblée nationale du Québec, mémoire de la RAM et du RAC. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à M. le ministre Barrette et la ministre Charlebois? Qu'est-ce que vous avez voulu leur faire comprendre qu'ils n'oublient pas au niveau du RAC?
Depuis longtemps, on s'occupe de ce dossier-là qui concerne l'articulation des services de réadaptation à l'intention des handicapés de la vue. Dans chaque région, il y a un centre de réadap qui dessert les handicapés physiques, les handicapés auditifs et les handicapés visuels. Malheureusement, les handicapés de la vue ont une part modeste dans ces centres-là. Dans la région de Montréal, il y a deux grands centres, le Montreal Association for the Blind et l'Institut Nazareth et Louis Braille.
Oui.
Cet Institut Nazareth déjà dessert trois régions, Laval, Montréal, Montérégie, mais il a également une vocation suprarégionale et vient en appui aux centres de réadaptation dans toutes les régions du Québec. Étant donné la restructuration que le projet de loi 10 voulait faire, on craignait beaucoup pour l'Institut Nazareth et Louis Braille, et on a fait nombre de représentations. Jusqu'à présent, on a réussi quand même à protéger un certain nombre de choses, c'est-à-dire que, par exemple, la vocation multirégionale dans le Montréal métro est protégé, c'est acquis, c'est gagné.
Mm-hmm.
La vocation suprarégionale pour que INLB vienne en appui à toutes les régions du Québec, ça aussi, c'est maintenu, c'est acquis, c'est gagné. Et on a fait un certain nombre d'autres gains. Je sais que le temps nous est compté ici, puis des fois, il y a des notions un peu plus compliquées là-dessus. Mais les gens qui nous écoutent, surveillez RAC en direct. On va, de diffusion, on va publier une édition cette semaine là-dessus sur ce que nous avons gagné et ce qui reste encore à travailler.
Alors, je vais dire tout de même des points qui ont été déposés. Reconnaître les corridors des services interrégionaux déjà établis par les régions de la Montérégie, c'est ce que, dont vous parliez.
Ouais.
Protéger les budgets par clientèle visuelle et non seulement par programme de déficience physique.
Ça, c'était une demande et ce n'est pas encore acquis.
C'est pas encore acquis. Maintenir les activités de recherche et de développement en déficience visuelle.
Ça, on en a peu parlé, mais je pense que ça va se faire, c'est évident.
Et puis, un point important, examiner la possibilité d'accorder à l'Institut Nazareth et Louis Braille le statut d'établissement suprarégional suivant l'article 7 du projet de la loi 10.
Ça, c'est une demande.
Oui.
Mais c'est une grosse demande. J'espère qu'on... Là, j'espère encore qu'on peut l'obtenir. Maintenant, ce dont nous sommes minimalement fiers, c'est qu'en commission parlementaire, les députés ont discuté pendant une demi-heure, et le temps d'une commission parlementaire est précieux, pendant une demi-heure, ils ont discuté de ça, cette demande-là du RAC et du RAM, c'est-à-dire de reconnaître le statut d'établissement indépendant pour l'Institut Nazareth et Louis Braille. Ils ont mis une demi-heure là-dessus, et puis il y a eu un vote. Évidemment, le gouvernement est majoritaire, donc ça a été rejeté, mais tout juste.
Et au moins, il y a eu discussion.
Oui, et on ne lance pas la serviette là-dessus. C'est pas vrai que à partir du moment où le projet de loi 10 sera adopté, c'est pas vrai que tout le monde retourne chez lui et on n'en parle plus jamais. J'ai des nouvelles pour le ministre Barrette et la ministre Charlebois. Ça se peut qu'on vous écrive encore.
On fait une petite pause, le message est passé. Une petite pause, Glenn Miller, Jumping at the Woodside.
Thank you.
Ces gens qui font la différence, nous sommes rendus au jeu questionnaire avec notre invité. Quelles sont les personnes qui vous ont inspiré?
Il y en a beaucoup. Mais si on doit en mentionner seulement une, je dirais Simone Monnet-Chartrand. J'ai eu le plaisir, le bonheur de travailler avec elle pendant environ 5 ans à la Ligue des droits de l'homme, qui s'appelle maintenant Ligue des droits et libertés. Et je côtoyais quotidiennement Simone Monnet-Chartrand, une femme exceptionnelle qui a réussi à conjuguer ses souhaits humanistes avec ses souhaits politiques, ce qui est un défi, et elle y arrivait. Et j'essaie moi aussi de faire ça, mais ça va être difficile de l'égaler.
Vos mentors?
J'en ai pas vraiment. Pour dire bien franchement, ou si j'en ai des dizaines, mais un mentor en tant que tel, non, je dirais non.
Les livres que vous nous recommandez?
Ah, ben là, j'ai pas de titre en particulier parce que j'en lis tellement, mais personnellement, je m'intéresse à plusieurs sortes de littérature. Mm-hmm. J'ai une affection particulière pour le roman historique ou pour les livres d'histoire de toute façon. J'aime bien, à l'occasion, des policiers. J'ai des goûts assez variés, disons, en littérature, mais, comme je vous dis, une affection particulière pour l'histoire et le roman historique.
Les villes où vous vous sentez le mieux?
Je dirais Montréal, premièrement, parce que je la connais bien. Mais si on parle d'une autre ville au Canada, je dirais Vancouver.
Pourquoi?
La mentalité des gens. Il faut dire que moi, étant aveugle complètement, lorsque je visite une ville, je ne fais pas une visite touristique qui consiste à aller voir quelque chose, mm-hmm. prendre des photos, etc. Moi, j'essaie plutôt de parler aux gens.
Une ville pour vous, c'est les gens. Ce sont les gens.
C'est d'abord ça. C'est d'abord et avant tout. Alors, je trouve que la mentalité de la côte ouest est une mentalité dans laquelle je pourrais vivre très facilement. Et Vancouver incarne bien cette mentalité de la côte ouest. En plus, la météo n'y est pas désagréable. Et l'architecture, je ne peux pas commenter. Je pense qu'on ne peut pas comparer à l'architecture de Montréal et de Toronto. Pas encore, parce que Vancouver est une ville assez récente, une centaine d'années à peu près. Mais pour le plaisir d'y vivre, c'est la ville que je trouverais la plus intéressante au Canada, après Montréal, bien sûr.
Alors, un amoureux de Montréal.
Tout à fait. Et du Québec en général.
Et du Québec. Merci beaucoup, Gérald Miller, d'avoir passé 60 minutes avec nous.
À la prochaine.
C'est un grand plaisir. Et merci à mon équipe, Jean-Sébastien Laliberté, qui a signé la réalisation de l'émission, ma recherchiste Christiane Campagna, et aux médias sociaux, Claudia Benoît, c'est Sophie Stanquet. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Bye bye.